Et la question que nous vous posions hier était: la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou représente-t-elle, selon vous, oui ou non, un moment décisif dans la poursuite des négociations et de la guerre? Alors, votre résultat, eh bien, il est sans appel, hein. C'est oui à 93% sur Insta, à 85% sur Facebook et à 100% sur X. Et donc, on va en parler. Lucie, vous allez en parler avec notre invité Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Paris 2 à Sas. Je vous laisse en sa compagnie, ma chère Lucie.
Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour.
Alors, cette rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, elle était très attendue. On parlait de redessiner le Moyen-Orient. Je voudrais qu'on revienne un peu avec vous. Vous avez entendu les résultats de nos auditeurs qui pensent à la grande majorité que c'était un moment décisif dans la poursuite des négociations et de la guerre. Alors, on vous demande votre avis pour commencer. Qu'en pensez-vous ?
Oui, mon avis n'est pas différent. Je crois qu'effectivement, c'était... un passage obligé pour Netanyahou et un moment très important parce que on est quand même à une croisée des chemins. Les négociations pour la deuxième phase des accords avec le Hamas sont en cours et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le grand parrain d'Israël, on va le dire ainsi, que les États-Unis s'impliquent fortement, d'abord pour que les otages puissent revenir et puis pour essayer d'installer une paix. Alors c'est quand même un sommet sous haute tension avec Trump parce que il fallait aussi raccrocher Trump avec Israël et surtout avec Netanyahou. On sait qu'il y avait eu de l'eau dans le gaz entre les deux hommes et donc il fallait pouvoir se rabibocher. Mais ça, visiblement, ça a été assez rapide à faire. Les deux sont des politiques et ils savent bien où est leur intérêt à l'un et à l'autre.
Oui, en tout cas, ils ont réitéré des démonstrations d'amitié. Alors, à l'évidence, Donald Trump, il a de grandes ambitions pour le Moyen-Orient. Que pensez-vous, par exemple, de sa proposition, enfin, que pensez, en règle générale, de sa proposition de placer Gaza sous contrôle américain ? Est-ce vraiment envisageable ?
Non, c'est pas envisageable, c'est même totalement impossible. Pourquoi ? D'abord parce que il faudrait une occupation militaire qui serait vraiment très compliquée à faire. Gaza, c'est 2 millions d'habitants sur une zone ultra densifiée et c'est un piège pour l'armée américaine. On a un territoire urbain qui est totalement détruit, des tunnels. Vous rendez compte le nombre d'hommes qu'il faudrait, et c'est des dizaines de milliers de soldats américains. Ce serait une guerre asymétrique avec des pertes militaires américaines qui seraient énormes. Les Américains ne sont absolument pas prêts à ce genre de choses. Je signale même pas, mais je vais le faire, le gouffre financier que ça représenterait, alors que les Américains sont en train d'essayer d'économiser de tous les côtés. On estime que ce serait des dizaines de milliards pour pouvoir faire une reconstruction complète de Gaza. Ça serait aussi un suicide diplomatique, hein, faut quand même le dire. Personne ne soutiendrait une telle occupation. Et les pays arabes ont déjà réagi. MBS a déjà fait une déclaration expliquant, contredisant d'ailleurs le président américain qui disait qu'il était d'accord. Et il a dit, mais non, évidemment que non. J'ai toujours dit qu'il fallait d'abord qu'il y ait un État palestinien avant de continuer sur les accords d'Abraham. Or, les accords d'Abraham, c'est quelque chose auquel Israël tient particulièrement. Bien évidemment, les Israéliens veulent vivre en paix dans la région et il faut en passer par là. Donc, c'est un plan, en réalité, populiste, simpliste, qui est vendu comme une solution simple à un problème complexe. C'est ce que dit tout le temps Trump. Il y a toujours des solutions assez simples. Non, mais il y a des endroits où c'est pas si simple que ça, parce que si ça l'était, il y a bien longtemps que les Israéliens auraient trouvé cette solution eux-mêmes. Et s'ils ont tant de difficultés dans la région, c'est bien parce que c'est un problème qui militairement, économiquement, politiquement est quasiment impossible.
Mais alors justement, vous l'avez dit, il a également engagé d'autres pays, en tout cas au cours de cette conférence de presse. Est-ce qu'il risque pas de s'antagoniser des pays qui sont aujourd'hui très actifs dans les négociations pour la seconde phase de la trêve, comme je pense à l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie?
Alors, concernant l'Arabie Saoudite, je pense que MBS est très politique et il a un rapport avec Trump qui est assez direct et assez franc. On a vu qu'il a plutôt envie de raccrocher le wagon trumpien lui aussi. Il a proposé à Trump qu'il effectue sa première visite internationale en Arabie Saoudite, en lui promettant d'ailleurs 600 milliards de contrats à la clé. Donc je pense que de ce côté-là, ça va faire plutôt un frottement, mais même pas un froid. En revanche, avec l'Égypte et la Jordanie, c'est une autre affaire. Parce que c'est vrai que les deux pays se sentent un petit peu malmenés d'avoir été embarqués dans cette histoire, qu'on puisse faire croire à des populations arabes qui puissent être en accord avec un tel plan, et certains seront amenés à le penser. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc je pense que là-dessus, il va y avoir du frottement. Et je pense aussi que ce que va faire cette déclaration, c'est surtout relancer un sentiment anti-américain au Moyen-Orient, ce qui n'est jamais bon.
C'est aussi une proposition qui n'est pas du goût de tout le monde. Également, en interne, les démocrates qui qualifient ces déclarations de mauvaises blagues. Est-ce que la situation au Moyen-Orient s'invite de nouveau dans les affaires domestiques américaines ?
Oui, alors que les démocrates réagissent, on pouvait s'y attendre. Mmh. On sait que Rachida Tlaib, Bilal Omar, pour ne citer qu'elles, puisqu'elles sont maintenant connues sur le plan international, étaient quand même très engagées en faveur des Palestiniens. Mais Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait pris ses distances quand même avec ses amis du Squad, est quand même remontée au créneau. D'autres démocrates de Renault l'ont fait aussi. Ce qui est plus embêtant pour Donald Trump, c'est que les républicains se sont également étonnés. On a eu des réactions de républicains qui, eux aussi, quand on les a interrogés, ont dit « Oh, ça doit être une grande blague ». Et évidemment que ça ne peut pas arriver. Cornyn, qui a par exemple expliqué qu'il donnerait sa réaction mercredi après avoir vérifié qu'elle était réelle. Donc là, il y a quand même une gêne qui s'installe, et l'idée que Donald Trump malmène ainsi son congrès en ne le tenant pas informé de ce qu'il veut faire ou de déclarations aussi prégnantes que celle-là sur le plan international, ça va laisser des traces parce que, évidemment, il y a des républicains qui sont aussi pour travailler très fortement à la paix et qui ont des idées sur cette partie du monde, idées qui passent par autre chose, notamment un affaiblissement de l'Iran qui leur semble plus utile pour pouvoir installer une paix et qui pensent que là, on a plutôt déstabilisé la région qu'autre chose avec une telle déclaration.
Eh bien, Jean-Éric Brana, je vous remercie pour votre éclairage, toujours très utile. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne journée.
Bonne journée.